Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Au sommaire de cette édition, regard braqué sur la Pennsylvanie, un état clé qui pourrait déterminer l'épilogue du feuilleton des présidentielles américaines. 8e journée d'affilée sans Covid au Victoria, à la veille de l'assouplissement annoncé des restrictions sanitaires. Et la France enregistre plus de 60 000 cas de Covid-19 en une journée. Aux États-Unis, tous les regards sont braqués sur les États-clés de Pennsylvanie, de l'Arizona, la Géorgie et le Nevada. Joe Biden est en tête dans les 4 États-clés alors qu'une attention particulière est braquée sur le décompte en Pennsylvanie. En effet, après le dépouillement de 96% des bulletins de vote, Joe Biden avait une avance de 14 500 voix. Si la tendance devait se poursuivre, cela signifierait qu'à l'issue du dépouillement des bulletins de vote en Pennsylvanie, Joe Biden aurait suffisamment de voix pour pouvoir être déclaré vainqueur des élections. En Géorgie, les autorités ont annoncé qu'elles vont passer au recomptage car les résultats du premier dépouillement sont très serrés. Keisha Lance Bottoms, maire d'Atlanta en Géorgie, a déclaré à la CNN être certaine des chances de Joe Biden de l'emporter dans son état.
I absolutely believe it. This is our year. I've known for a while that Georgia was trending blue. Now the world sees it. So I know it's going to be a thin margin, but we're used to close elections. My race for mayor was 832 vote difference out of almost 100,000 votes. I've been saying that to people all week that we needed to show up because it was going to be close, and this is what we're seeing.
Et pendant ce temps, une trentaine de partisans de Donald Trump manifestaient à proximité d'un centre de dépouillement à Atlanta. Nathan Willie Ford, un partisan de Trump, dit douter que Joe Biden soit en tête.
I'm here because I don't believe Georgia is a blue state. I believe we are a red state. I think there's more afoot here than just normal legal ballots. So I find my freedom and my freedom of choice important to me.
Entre-temps, le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu'il est disposé à travailler aussi étroitement avec Joe Biden qu'il a collaboré avec d'autres présidents américains.
Of course, I mean that is absolutely. If once the election has concluded and all the votes are counted and it is declared and there is, you know, that has not been resolved yet, but that has always been our approach. See, the Australia-US relationship is bigger than any one individual, it's bigger than any prime minister, any president. I've said this consistently. And it's wide and it's deep and it's incredibly important.
Et ce samedi marque la 8e journée consécutive sans nouveau cas de COVID-19 au Victoria. Demain, dimanche, le premier Daniel Andrews doit annoncer de nouvelles mesures d'allègement des restrictions sanitaires, y compris la levée du soi-disant anneau de fer autour de Melbourne. Les habitants de la capitale pourront se déplacer au-delà du rayon de 25 km autorisé jusqu'à ce jour et se rendre dans les zones rurales du Victoria. Et les possibilités de voyager seront étendues davantage lorsque la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud va rouvrir le 23 novembre prochain. Et en Nouvelle-Galles du Sud, un nettoyage profond est en cours dans une école et une crèche dans le sud de Sydney. Ce, après l'éclosion d'un foyer de coronavirus. 4 nouveaux cas de contamination locale ont été signalés en Nouvelle-Galles du Sud hier. Et le docteur Jeremy McNulty, des services de santé de Nouvelle-Galles du Sud, a précisé que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine d'un des cas détectés. Les autres cas sont des cas contacts.
One of the new cases attended Mossvale Public School. And another attended the Southern Highlands Early Learning Childcare Centre. The school and childcare centre are working closely with New South Wales Health to identify close contacts. Anyone who lives or works in Mossvale area needs to be particularly careful to watch out for COVID-19 symptoms and come forward for testing on the day they develop.
et 60 486 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en France hier en l'espace de 24 heures. Selon les autorités sanitaires, ce chiffre très alarmant communiqué hier soir est pourtant minoré en raison d'un bug informatique. Les données sur les nouvelles contaminations manquent de précision car, d'après Santé publique France, un bouchon informatique s'est formé en raison du volume très important des tests réalisés ces derniers jours. Et toujours en France, hier, trois nouveaux suspects ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, terroristes, criminels, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit de deux hommes, un Français et un Russe, d'origine tchétchène, tous deux âgés de 18 ans. Ils ont été placés en détention provisoire. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir échangé des messages avec l'assaillant Abdullah Anzorov. Sur le continent africain, des opposants ivoiriens ont été arrêtés et deux autres, Pascal Afingessan et Albert Toakes Mabri, sont activement recherchés par les autorités ivoiriennes qui les accusent d'avoir mis en place un Conseil national de transition suite aux élections présidentielles contestées du week-end dernier. Des actes qui, selon la justice ivoirienne, sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État. Des actes pour lesquels ils risquent de lourdes peines. Explication Pierre Pinto pour RFI.
Face aux journalistes, le procureur, Richard Adou, a donné un certain nombre de précisions sur les arrestations d'opposants ces derniers jours. Le 3 novembre, au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un Conseil national de transition, une vingtaine de personnes ont été arrêtées chez Henri Conan Bédier. 9 ont été libérées depuis, mais 12 sont toujours aux mains de la justice, dont le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakougikawe. Le président du FPI légal, Pascal Afingessan, qui a annoncé au nom de l'opposition la mise en place de cette transition, et le président de l'UDPCI, Albert Toakes Mabri, sont en fuite activement recherché, selon le procureur. Pour Richard Adou, en créant un conseil de transition et en annonçant un gouvernement parallèle, les leaders de l'opposition ont commis un acte de sédition constitutif d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Fin de citation. Mais le parquet n'a pas attendu l'annonce de cette transition pour ouvrir une enquête. Se penchant sur les conséquences des appels de l'opposition à la désobéissance civile et au boycott actif, le procureur a saisi la veille de l'élection le doyen des juges d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, notamment pour actes de terrorisme, meurtre, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel, entre autres.
Et on reste sur le continent africain et plus précisément en Éthiopie où le pays est en passe de sombrer dans un conflit de grande envergure. Le gouvernement poursuit en effet son offensive contre la province sécessionniste du Tigré dans le nord du pays. La situation sur le terrain est confuse, mais l'escalade se poursuit. Hier, le Premier ministre Abiy Ahmed a demandé à la population civile de Tigré de quitter les zones de combat avant d'engager son aviation contre les forces sécessionnistes. Addis Abeba, depuis Addis Abeba, Noé Rochin, Boudin pour RFI.
Hier déjà, des avions de combat avaient été entendus dans le ciel de Mekele, la capitale du Tigré. Impossible à l'époque de savoir si des frappes avaient réellement été menées. Abiy Ahmed le confirme, les frappes de l'armée de l'air sont à venir. Elles viseront les positions du TPLF, le parti tigréen, principalement des dépôts d'armes à Mekele et dans ses environs. Selon lui, ces frappes sont préventives pour éviter que les forces tigréennes utilisent des pièces d'artillerie lourdes, y compris des roquettes de plus de 300 km de portée, précise-t-il. Plus important encore, le Premier ministre demande aux populations civiles de ne pas rester cantonnées dans les villes qui seront ciblées par ces bombardements. Un appel dans le vide si l'on considère que les Tigréens sont coupés du monde. En effet, depuis mercredi, les réseaux internet et téléphoniques sont bloqués. Ces bombardements sont une escalade de plus, évidemment, probablement le point de non-retour dans ce conflit. Le gouvernement a déjà signalé qu'il ne souhaitait pas négocier. Pourtant, les appels au cessez-le-feu se sont succédés, y compris de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Et retour dans nos contrées, en Nouvelle-Zélande plus précisément, où les Néo-Zélandais ont à une courte majorité rejeté la légalisation du cannabis à usage récréatif, mais se sont en revanche prononcés largement en faveur de la légalisation de l'euthanasie selon les résultats définitifs des deux référendums publiés hier. Et l'intégralité des visons élevés au Danemark est vouée à l'abattage. En cause, une mutation du Covid-19 qui menacerait la mise au point d'un vaccin pour l'homme. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce samedi. Perth, 29 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 15. Hobart, 14. Canberra, 19. Wollongong, 18. Sydney, 19. Newcastle, 22. Brisbane, 27. Cairns, 33. Et Darwin, 36. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. Regard braqué sur la Pennsylvanie, un état clé qui pourrait déterminer l'épilogue du feuilleton des présidentielles américaines. Et 8e journée d'affilée sans Covid-19 au Victoria, à la veille de l'assouplissement annoncé des restrictions sanitaires. Et la France enregistre plus de 60 000 cas de Covid-19 en une journée. C'est tout pour l'actualité de ce samedi. Après la pause, on passe au magazine des sports.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.